Je pense que Saint-Esprit nous a vraiment touchés ce matin. Il nous a vraiment touchés et il ne faut pas perdre ces moments. Il y a Michel qui m'a demandé, « Prie pour moi Robert, je veux recevoir plus du Saint-Esprit. » Nous avons tous déjà le Saint-Esprit, mais vraiment de sentir comme une vague. Et la vague qui nous a dirigés dans la louange, mais de sentir Dieu comme une vague d'amour. Et ça change beaucoup. On a besoin. Quelquefois, il y a les temps de désert, voilà, ça fortifie notre foi. Mais on a besoin aussi des temps qui nous inondent, où ça coule de source, quoi. Et ça, ces moments de louange, ça peut nous aider aussi. Ces moments de louange où on se donne à Dieu. Et tout commence dans l'intimité. Là, il y a Odette qui nous a apporté cette parole, comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est vrai, il y avait le sacrifice de Jésus, mais il y avait aussi sa joie d'être envoyé, sa joie d'être en partenariat avec le Père et d'être envoyé dans le monde. Et je ne pense pas que Jésus était triste. Je ne pense pas qu'il se levait le matin en disant, voilà, quelle corvée, je dois guérir les gens, je dois partager l'évangile, la bonne nouvelle, je dois prêcher les béatitudes. Je pense que c'était très spontané, je ne pense même pas qu'il avait... Je pense que c'était un homme très spontané. Il allait au mariage de Cana. J'étais à un mariage hier, hein, et donc... C'est pas comme des Anglais, hein. Nous on fait vite, hein. On mange. Si on prend 2 heures pour manger, c'est déjà beaucoup, hein. Alors là, quand vous commencez à manger, je sais pas quelle heure c'était, midi ou quelque chose comme ça, et après, vers 8 heures le soir, vous êtes toujours au fromage, et après, il y a l'Armagnac âgé de 30 ans qui sort. Quelle onction, hein. Moi, ne vous enivrez pas d'Armagnac, mais soyez remplis d'esprit. Mais quand même, je dis, Jésus, il participait à tout ça. Même les mariages dans le temps d'Israël, ça durait des jours, et Jésus était là. Et quand il n'y avait plus de vin, on va vers qui? D'un côté, c'est intéressant, ça. Quand il n'y avait plus de vin, on allait vers qui? Jésus. Quand même, ça nous dit quelque chose, non? Quand il n'y a plus de vin, on va au champ, on va à la cave, on va. Mais la solution, quand il n'y avait plus de vin, quand il n'y avait que de l'eau, voilà, tout le monde est mort, ils attendent, voilà. Et on va vers Jésus. Et lui, il ne prend pas juste le vin d'une manière humaine, mais il transforme l'eau en vin. Et il transforme notre eau en vin. Il transforme notre ordinaire en extraordinaire. C'est ça la beauté de Jésus, c'est qu'il prend entre ses mains nos vies ordinaires, nos tracas de chaque jour, les difficultés, les souffrances, et il peut transformer ça en vin. Et comme toutes les invités, ils ont dit après, mais waouh, ce vin-là, tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que nous, on va tous vers une fin. Hein, et quand je vois, bon, il n'y a que les bébés qui sont au début, hein, au commencement. Mais nous, on a déjà roulé nos bosses, on a déjà fait des choses. Et on dit, mais est-ce que c'est perdu? Est-ce que mes meilleurs jours sont derrière moi? Quand je cours, hein, moi, j'avais mes temps pour un marathon, et j'ai dit, oh, je ne ferai jamais plus ça. C'est quand j'étais jeune, je pouvais courir vite, et maintenant j'ai pris du poids, et maintenant... Mais bon, c'est pas pour ça que je suis triste, parce que je dis, mais peut-être le meilleur vin est encore à venir. Je sais pas si je courrais mon record du monde, mais j'ai toujours comme une petite folie, une petite espérance qui dit, mais quand même, tout est possible, Seigneur. Peut-être, qui sait? Je le crois pas vraiment, hein, mais ça me garde en vie de peut-être dans des choses, peut-être c'est plus mon temps de courir des marathons, peut-être Dieu va changer mon contexte. Il dit, voilà, il y avait un contexte de courir des marathons, mais sois réaliste. Maintenant, je change ton contexte. Et peut-être c'est un contexte, je ne sais pas quoi maintenant, mais c'est pas de peindre des choses ou d'exprimer autrement, d'être plus tolérant, d'être patient. Et je pense, nous tous, Dieu garde le meilleur vin pour ce qui reste de notre vie. Vous n'allez pas vers quelque chose de triste. Il n'y a pas que de l'eau qui reste. Il garde le meilleur vin. Et aujourd'hui, votre meilleur vin est dans cette semaine. Votre meilleur vin est dans cette semaine. Il a gardé quelque chose. Ah, transforme mon ordinaire en extraordinaire. Et comme le Père a envoyé Jésus, il nous envoie cette semaine. Et donc, je vais partager avec vous mon verset favori, mon verset missionnaire favori. Parce que bon, vous êtes en train de me découvrir un peu pendant une année, et vous voyez que je suis assez missionnaire. Hein. J'ai envoyé groupe contact, 7x7, vision 50, qu'on a une équipe de missionnaires, pas juste une paroisse. Et donc moi j'aime beaucoup la mission, mais il faut que la mission soit juste. Et donc Marc chapitre 14 et verset 9, c'est vraiment un de mes versets favoris par rapport à la mission. Et vous savez, Jésus, il ne mentait jamais. Hein. Et donc verset 9, il commence en disant vérité. Marc chapitre 14 et verset 9. Donc, si vous lisez ce verset, les premiers deux mots, c'est en vérité. Donc, s'il dit en vérité, est-ce que c'est pour dire avant j'ai menti, mais maintenant je dis la vérité? Parce que bon, tout le reste, j'ai menti, mais maintenant je dis la vérité. Je ne pense pas que, à moi qui a des interprétations un peu spéciales. Non, ça veut dire que je veux vraiment appuyer cette chose. C'est important. C'est très important ce que je vais dire. En vérité, je vous le dis, partout, y compris Wavrin, y compris Ranchin, y compris Falampin, Libercourt, voilà, Carvin. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, donc ça c'est bien pour moi, hein, c'est dans le monde, prédication de l'évangile, et cet évangile sera prêché dans le monde entier, et puis viendra la fin. C'est allez, faites toutes les disciples, de toutes les nations les disciples, tous ces versets missionnaires, c'est tout est là. La bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle, prêchée dans le monde entier. Donc tout de suite, il faut des érudits, les docteurs, il faut les super spirituels pour faire ça. Alors, il faut avoir des billets d'avion, des passeports, des visas, des piqûres antipalus. Il faut connaître la culture. Il faut savoir comment aborder tout le monde. Et d'un côté, on se disqualifie quelquefois. On se disqualifie tout de suite en disant oh, « c'est trop grand pour moi quand même. Je suis une petite personne ordinaire. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec une petite personne ordinaire comme moi ?» Mais c'est pour ça que j'aime ce passage. Parce que ça enracine la mission dans nos réalités locales. Ça enracine la mission, le privilège de servir Dieu dans notre réalité quotidienne. Et comment? Pourquoi? Parce que l'évangile est prêché dans le monde entier. Waouh, ça c'est grand. Mais après il continue, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Bravo. Cherchez la femme. Qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Il parle tout d'un coup, les nations prêchées dans le monde, et tout d'un coup, une petite femme. Moi, j'aime ça. Parce que Jésus, il utilise les petits hommes et les petites femmes, et les petits enfants. C'est super. Plus on est petit, plus on est utile. Plus on est petit, il dit, voilà, Jésus, il prend un petit enfant, tous les grands, mais moi, je serai à droite de Jésus, non, moi, je serai à gauche. Il dit, moi, je vais vous montrer quelque chose. Il prend un petit enfant. Et il dit, voilà, le royaume de Dieu appartient à ces petits. Et si vous ne devenez pas tout petit comme un enfant, vous n'hériterez pas. Et donc, ça parle de vulnérabilité, d'innocence, pas trop réfléchir à tout. C'est la simplicité. Et c'est pour ça que j'aime ce passage, parce que cette femme, est-ce que ça veut dire que quand vous prêchez, vous partagez l'évangile, vous devez dire, voilà, Jésus-Christ, voilà, il est né de la Vierge Marie, il a fait le bien toute sa vie, et après il est mort sur une croix pour moi, pour effacer mes péchés, il a été enseveli, et le troisième jour il est ressuscité, après il est allé au ciel, et après il a déversé le Saint-Esprit sur son Église. Voilà, l'évangile un peu, on dit ça, et après, oui, et après il y a une femme. Et cette femme, elle a... Ah oui, il faut parler de cette femme. Est-ce qu'il faut ajouter sur nos traités? Et il y avait une femme. Moi, je n'ai jamais vu un traité comme ça qui parle d'une femme. Mais pourquoi Jésus parle de cette femme? C'est parce qu'elle symbolise, elle incarne l'esprit de la mission. C'est très, très important. Elle incarne l'esprit d'intimité qui doit être... l'énergie, la puissance derrière notre mission. En ce moment, dans les études bibliques, nous sommes en train d'étudier la puissance de l'intimité. Et bon, normalement, je devais donner ce message mardi, mais j'ai dit non, allez, dimanche, c'est pour le culte. Et donc, c'est vraiment cette force, cette femme représente cette force de l'intimité qui doit être la motivation et l'impulsion derrière notre mission. Et donc cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est important. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut retourner quelques versets et regarder à partir de verset 3 en Marc 14. Hein? Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et déjà là, l'histoire commence pas dans une église. L'histoire commence ni dans une synagogue, ni dans une réunion de prêtres, ni dans une réunion de sacrificateurs, mais l'histoire commence dans une maison. L'histoire commence dans une maison. Et là encore, ouvrons nos maisons. Jésus veut venir. L'histoire commence dans une maison. Et aussi, ce n'est pas le maison de n'importe qui. C'est le maison de Simon. Et donc ça va, Simon, c'est un bon nom juif. C'est très cocher, cachère, très propre. Mais après, on ajoute le lépreux. Simon le lépreux. Oh. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de visiteurs, lui. Parce que le lépreux, il était impur à l'époque. On ne va pas chez lui. Il y avait une petite cloche. Pas pour les autres de sonner, mais pour lui de sonner. Allez, évite-moi, évite-moi. Impur, c'est ce qu'il devait. Mais Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Et donc... au moins, ça nous montre qu'on ne doit pas être trop religieux, qu'on ne doit pas juger trop fort, trop vite les gens, qu'on doit incarner la grâce, même au milieu de toutes sortes de situations. Donc déjà là, c'était pas mal. Moi, j'aime que Jésus y trouve une place dans la maison de Simon le lépreux. Et après, une femme, alléluia. Là encore, les femmes à l'époque n'étaient pas très accueillies. Et donc Jésus, il a accueilli cette femme. Une femme entra, et pendant qu'il se trouvait à table, voilà, ça c'est un verset français, ça, à table, c'est magnifique. Parce que la mission, la vraie mission commence, pas juste dans une maison, mais à table. Et qui, on est tous missionnaires à table. Et vous voyez combien les gens sont gentils à table. Bon. Ils sont plus gentils à table qu'à l'église. Bon, vous êtes gentils à l'église, tout le monde. Mais souvent, je ne pense pas, c'est juste pas la gentillesse, c'est l'ouverture de cœur. Parce que, je ne sais pas, quelque chose nous a programmé. C'est pas, on a été programmé de traverser, pas forcément cette église. Hein. Je peux toujours blâmer d'autres. Mais les églises institutionnelles, imposantes, tout ça. Où on arrive, et tout, c'est comme si les gens, dès qu'ils franchissent la porte de l'église, ils se ferment. Bon. Fermé. Je vais subir, je vais écouter, et après, fou, j'ai survécu une autre messe. J'ai survécu une autre, je n'ai pas trop condamné. Voilà, toutes les flèches qu'il a tirées, fou, j'ai pu, mais évidemment. Et même tous les gens que je vois, tel et tel, qui ne m'a pas dit bonjour, et l'autre qui est mal sourd. J'ai évité une histoire, j'ai survécu une autre messe. Mais quelquefois, on doit être bien barricadé dans certaines communautés. Mais quand vous êtes à table, je suis étonné de voir les gens, comment ils s'ouvrent à table. Je ne sais pas si c'est l'effet du vin, peut-être un petit peu, boire un petit coup, c'est agréable, mais bon, ne soyez pas enivrés de vin, mais remplis du Saint-Esprit, ça c'est mon verset secours aujourd'hui. Mais quand même, j'ai dit, il y avait l'humanité qui est là à table. Ce n'est pas juste l'institution. Et on doit éviter d'être trop institutionnel comme Église. Il faut trouver l'humanité de Jésus. Jésus n'est pas venu instaurer un grand bâtiment. Il est venu instaurer une communauté de vie, communauté de frères et de sœurs. Son Église maintenant n'est pas un bâtiment. Nous sommes des pierres vivantes. Et donc l'Église doit être un lieu où on s'aime, où il y a quand même un contact, il y a un peu d'humanité, où on rit. Et à table, moi j'aime bien, à table, tout le monde est invité. Allez, à table, tout le monde a une place. On peut manger beaucoup, on peut manger pas beaucoup. On peut être bien habillé, mal habillé, c'est pas... Allez, à table, surtout quand c'est familial, à table. Et vous voyez combien on aime fêter Noël à table, combien on aime ces fêtes à table. Même à Pâques, je suis sûr que plusieurs étaient à table, c'est pas avec l'agneau, avec des choses, mais à table. Et c'est bien parce que vous savez qu'il y a, quelque chose, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, donc je vous révèle un secret, qu'il y a une petite corde qui est attachée à la bouche, c'est invisible, hein, mais c'est attaché, et ça touche le cœur, d'accord? Et quand on ouvre pour manger, ça ouvre le cœur. Et c'est pour ça que Jésus a fait la Sainte Cène et le repas. Parce qu'il dit, allez, les disciples, ils étaient tellement fermés, ils ne comprenaient rien, ils étaient incrédules, ignorants, ils répétaient des choses. Oh, on a apporté du pain. Tu sais, il a déjà fait des miracles de multiplier 3000. Et il dit, oh, ils n'ont rien mangé. Mais vous avez déjà oublié. Si vous avez vu une multiplication de pain, vous allez oublier la prochaine fois qu'il faut nourrir une foule. Mais bon. Mais à un moment donné, il dit, voilà, allez. Allez, ouvre la bouche, Pierre. Allez, tu seras... Il enseignait quand les gens avaient la bouche ouverte. Parce qu'avec la bouche ouverte, il y a souvent un cœur ouvert. Et bon, c'est pas vraiment une corde hein, pour les gens qui font leur examen de biologie. Ce serait un zéro. Mais je pense qu'il y a quand même un principe à table. Et j'aimerais dire... qu'on n'a pas besoin d'un visa, on n'a pas besoin d'une licence en anthropologie, qu'on n'a pas besoin d'être très érudit. On peut être juste à table pour être un missionnaire. La mission peut commencer à table. Et là, je veux dire aussi, bravo pour tous ceux qui facilitent la table. Parce qu'il y a les serviteurs, les cuisiniers, les gens qui rangent, qui rendent la table bien. Il y a des gens qui parlent. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Moi, je mange beaucoup aussi. Je pense à ça, je vais être lié. Mais je suis un parleur à table. Moi, j'aime bien parler aux gens à table, discuter, philosophiser, machin. J'aime ça. Mais moi, si j'étais tout seul, ça serait terrible parce qu'il y aura une boîte de conserve d'haricots blancs hein, et pour 12 personnes. Hein. Et donc, gloire à Dieu. Tu sais, la mission, c'est aussi toutes ces gens qui... facilite, qui prépare, qui crée l'ambiance. Jésus est à table. Mais encore, cette femme arrive. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Waouh! Donc là, il y a l'image d'une femme et c'est tout fragile ce qu'elle a. Et à l'intérieur, il y a un parfum de grand prix. Et là encore, je vais utiliser des images. Parce que Paul, il utilise aussi une image. Il dit, nous avons un trésor dans un vase d'argile. Et bon, argile, albâtre. Pour Paul, peut-être qu'il était un homme. Les hommes, ils ont des vases d'argile. Et les femmes, c'est d'albâtre. Mais c'est quand même, c'est notre... C'est ici notre vase. C'est ici le contenu. Et quand les gens, comment je peux dire, quand on partage Jésus avec les gens, ils ne veulent pas voir notre argile. Ils ne veulent pas voir notre albâtre. Voilà notre confession de foi. Voici ma dénomination.
Voici que depuis l'âge de 6 ans, j'ai vu les belles pierres de cette église. On tourne autour, on voit, on se protège. On se protège avec beaucoup de choses. Mais ce qui va toucher les gens, ce n'est pas notre argile. Ce qui va toucher les gens, c'est le parfum dedans. Parce que chacun de vous, je vais vous dire quelque chose, et je veux que vous croyiez ça de tout votre cœur, c'est que chacun de vous, vous avez un parfum de Grand Prix à l'intérieur de vous, et qui veut sortir, et qui sort. Moi, je le sens ce matin, c'est beau, c'est un parfum de Grand Prix. Et donc, est-ce que je vais juste donner une sorte de dogme? On a trop de dogmes aujourd'hui autour de nous. Tout le monde veut donner leur dogme, leur enseignement, leur propagande. Mais Jésus, il n'a pas donné un propagande. Ce n'était pas comme des témoins de Jéhovah qui viennent tac, 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 ou, tac, 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 tac. On voit une non-humanité. C'est comme s'ils juste me gonflaient avec toutes leurs paroles. Et nous, en tant qu'évangéliques, les gens, ils ne veulent pas juste encore un argument. Où on a une sorte de distance des gens, on leur donne nos quatre vérités et après on part. Non. Là, ils veulent sentir quelque chose de vrai en eux, quelque chose d'authentique. Et donc, la mission est quatre mots. Elle arrive avec ce parfum et après quatre mots, elle brisa le vase. Tac. Quelque chose a été brisé. Et je pense que Dieu, comment je peux dire, il doit briser toutes les choses irréelles. Quelquefois, il doit briser tous les faux semblants. Toutes les... voilà. Et ça, c'est un bon brisement. Ça, c'est un très bon brisement. Et cette femme-là, quand elle apporte, c'est le cœur de la mission. La mission commence quand on libère le parfum de Jésus qui est en nous. Quand on quitte tous les faux semblants, qu'on essaie de dire, voilà, c'est ça que je connais de Jésus. Voilà, c'est ce parfum que je connais. Et on doit être un peu vulnérable pour partager l'évangile. Jésus n'est pas venu en blindé. La parole a été faite acier. La parole a été faite acier et nous a écrasés. On réécrit le début de l'évangile de Jean, quelquefois. La parole a été faite chair. Et la chair saigne, la chair est vulnérable. Et je pense que Jésus, à chaque personne, le lépreux, il était juste là, pas barricadé derrière son argile, mais les gens pouvaient l'approcher. Il y avait une odeur de grâce, un parfum de grâce et d'amour sur sa vie. Et c'est ça la vraie évangélisation. Ça commence pas avec une parole, ça commence avec le feeling, un sentiment. Les gens doivent sentir l'amour en eux. Et je pense que ça, c'est un argument silencieux qui pénètre tous les environnements. Et il y a les gens, moi, quelquefois je rencontre les gens qui ont tellement souffert, ils sont vraiment fâchés contre Dieu. Et je comprends. Mais souvent, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que je leur donne les quatre vérités. Vraiment, la dernière chose qu'ils veulent. Et quelquefois, je dois juste être là, les écouter. Et dire, mais Seigneur, brise un peu, en écoutant, brise un peu mon vase. Là. Et après, ils sentent quelque chose est amolli, quelque chose change. Mais ça peut prendre du temps. Mais ça commence en cassant nos carapaces. En cassant nos carapaces, en laissant le Seigneur. Et donc, je vais vous donner trois choses qui peuvent nous aider à casser nos carapaces, d'accord? Très rapidement. Trois choses. L'adoration. Quand vous êtes là, Jésus, je t'aime, comme ce matin, Jésus, je t'aime, Jésus. Et le diable a dit à Jésus, il a dit, allez, adore-moi et je te donne toutes les richesses du monde. C'est une bataille d'adoration. Est-ce qu'on va adorer des choses matérielles? Qu'est-ce que c'est la priorité? Oh, j'adore personne. Les athées diraient, j'adore personne. Mais tout le monde doit adorer quelque chose. Hein, nos idoles sont souvent cachées. Mais une idole, c'est la chose qui est la plus importante dans ta vie. Et Jésus dit, moi, je veux la première place. Et donc, quand vous adorez, vous donnez vraiment à Jésus la première place. Et ça, ça casse votre argile, ça casse votre albâtre. L'adoration casse tout ce qui est rigide. Et ça vous imprègne du parfum du ciel. Vous faites le plein pour arroser les autres à la maison, pour arroser les autres dans la société. En adorant, pas juste dimanche matin, mais c'est bien collectivement d'adorer dimanche matin. Mais même chez vous, vous pouvez louer Dieu et passer des heures même à chanter, à méditer, à faire allumer des bougies. Je ne sais pas comment vous adorez Dieu, mais de faire un dessin, faire une balade en louant la création. Bon, en louant Dieu au travers de la création. L'adoration. Deuxième chose, la prière. La prière. Là, c'est l'argile n'aime pas la prière. Mon argile n'aime pas la prière. Mon argile aime l'action. Donc, mon argile doit prendre un sacré coup pour prier une heure. Et quand je dis prier, quelquefois, je médite la parole avec. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut juste souvent prier comme ça. J'ai besoin d'être inspiré. Et pas juste prier mes besoins, mais de prier une sorte d'adoration aussi. Et de prier, quelquefois je lis un passage et je reste dans ce passage. Et ce passage devient comme un bonbon que je suce toute la journée. Et ça m'aide à prier, utilisant la parole aussi. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. On est dans le club 4, 14, 14. Quatrième évangile, chapitre 14 et verset 14. 4, 14, 14. La prière. Et finalement, c'est le sacrifice aussi. C'est quand on se sacrifie. Mais vous savez, sacrifice, on peut aussi dire amour. Parce que le vrai amour, il y a toujours un sacrifice. Et je lisais un article l'autre jour qui disait « Le mariage n'est pas pour toi. » Et je dis « Bon, ça, c'est pas une bonne chose pour dire à un jeune couple. Le mariage n'est pas pour toi. » Mais quand je lisais l'article, ça disait « Oui, il aimait beaucoup le mariage, il était très pour le mariage, mais le mariage n'est pas pour toi seul, juste toi seul. Tu te maries pour l'autre. » Et je dis « Bon, maf, quand j'ai lisé ça, je dis « Ah, mais... » Après presque 30 années de mariage, peut-être je vais apprendre quelque chose que ce mariage n'est pas pour moi. Je ne me suis pas marié pour moi. C'est intéressant, pour mes besoins, pour avoir une tasse de thé au lit le matin. C'est quelqu'un pour faire la vaisselle. Tranquille, j'ai une bonne femme. Oh, tranquille, j'ai un bon mari, il peut être avec tous mes soins. Mais je suis pour l'autre. J'étais interpellé. Et je pense qu'il y a toute une réalité là-dedans, dans le sacrifice de l'amour. Le moi, l'argile, l'argile de moi, l'albâtre de moi, prend un sacré coup. Mais heureusement, parce que c'est en aimant, en perdant, qu'on retrouve la vraie vie. Une vie égoïste, c'est toujours une vie perdante, dans tous les sens. Dans tous les sens, une vie égoïste. Et chaque fois que je choisis, parce que moi je suis loin d'être l'exemple parfait de l'altruisme, je suis égoïste comme tout le monde, c'est mon péché, comme nous tous on a des péchés, mais j'essaie, je dis mais Seigneur, brise cette argile d'égoïsme, aide-moi à me sacrifier un petit peu pour d'autres. Et je me retrouve là-dedans et tout d'un coup, il y a une bonne odeur qui se dégage. Et quand il y a une communauté, quand il y a un mariage où il y a deux brisés, ça marche bien. Quand il y a une communauté où il y a plusieurs brisés, ça marche bien. Mais quand vous avez une communauté de peaux d'argile non brisées, c'est l'isolement, chacun dans leur coin. Bon, terrible, un mariage comme ça, c'est pas bon. Et donc, le sacrifice de l'amour, prière, non, adoration, prière, sacrifice. C'est ça, pour moi, le brisement de ce vase. Et si vous faites ça, d'accord, disons, je vous ai motivé, allez, prends un peu de pain, voilà, ça entre dans le cœur, et je suis convaincu,
Je vais baser ma vie maintenant autour de l'adoration, autour de la prière, autour de ce sacrifice de ma vie pour quelqu'un d'autre. Et les gens vont vous parler. Si vous faites ça vraiment d'une manière extrême, parce que cette femme, elle était extravagante aussi, parce que l'amour est extravagant, voilà. Il y a un peu de folie dans l'amour. Dans l'amour de Jésus, il y a beaucoup de folie. Un Dieu qui envoie son Fils, le Père, bon, c'est la Trinité, tout ça, mais il envoie, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, allez, pour se sacrifier, pour être tous sauf égoïste. Et là, quelle générosité, il n'avait pas besoin de faire ça, quel cadeau. Et chaque fois que vous entrez dans l'intimité, vous entrez dans cette extravagance aussi. Vous partagez quelque chose de l'extravagance de Dieu. Et cette femme, ce parfum, ça valait une année de salaire. Une année de salaire. Vous imaginez la collecte qui passe, et tout d'un coup, voilà, gros chèque, une année de salaire. Je comprends ça. Bon, nous, on n'a pas une collecte qui passe. Et vous rentrez à la maison, et vous dites à votre mari ou à votre épouse, « Chérie, je sais que tu n'étais pas à l'église ce matin, mais oh, j'avais un élan d'extravagance. Le prédicateur, il m'a dit de prêcher sur le sacrifice et tout le reste et tout ça. Et donc j'ai fait un chèque d'une année de salaire. T'es content, non ? Oh là là. Mais moi, si Sylvain disait ça, je ne sais pas ce que je dirais. Mais qu'est-ce que les disciples, ils étaient des hommes religieux là, autour de Jésus, les disciples de Jésus. Et quand ils brisent ce parfum très coûteux sur la tête de Jésus, verset 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Leur indignation. Et je dirais que quand vous êtes vraiment engagé avec Dieu, ça suscite l'indignation des autres. Parce qu'ils disent, oh, c'est trop quand même pour Jésus, tout ça. C'est trop. Et je dis, mais si vous commencez vraiment à grandir, vous allez entendre deux questions. Et j'espère que vous avez déjà entendu ces questions. Parce que si vous avez déjà entendu ces questions, ça veut dire que vous êtes vraiment missionnaire. Et la première question, c'est les questions de l'époux, hein, après avoir donné ce grand chèque. À quoi bon perdre ? À quoi bon cette perte ? À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre. On aurait pu le vendre. Plus de 300 deniers. Et après, il disait, il est donné aux pauvres. On donne toujours aux pauvres. Mais c'est comme beaucoup de choses. Il y a un bon pourcentage qui reste dans la poche aussi. Et je pense que quand on voit que Judas était le trésorier de l'équipe, et il dit en Jean qu'il piquait de l'argent, il se servait. Donc les pauvres, ils avaient peut-être 10% et Judas 90%. Mais il fallait donner de l'argent quand même. Les pauvres, vous aurez toujours les pauvres avec vous, a dit Jésus. Ça, c'est un verset de Deutéronome. Mais il dit, moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et donc, quand vous passez votre temps à adorer, on ne peut pas, l'adoration, ça ne gagne pas des sous. Ça, on ne va pas être nourri avec l'adoration. Toi et ton adoration, tu passes 2 heures. Bon, ça perd de temps à adorer. Chantez-vous. C'est étudiant. Mais bon, on est missionnaire, là, en adorant. Oh, prier. Bon, il touche à la prière. Il y a les gens qui prient des heures. Il y a les gens, moi, je suis avec des fadas, quelquefois, du Château Blanc, au début, qui priaient des heures. On passe 10 jours de prière, voilà, séminaire de Dieu. Mais à quoi bon prier? Mais qu'est-ce qu'il faut? Autant faire le jardin. On fait le jardin aussi, mais c'est... Je dis, il faut faire aussi... Orare labore, hein, la prière et le travail. Mais prier, et la prière n'est pas une valeur, la prière n'est pas valorisée dans cette société. Mais ça, c'est la mission aussi, la mission à genoux. À quoi bon perdre du temps à prier? Et aussi, on peut entendre aussi, il ne faut pas être naïf, hein, lui est toujours en train d'être la mère Thérèse, il se dit, oh, il faut être pauvre, allez, défends tes doigts, allez, revendique. On ne perd jamais en aimant. Je vous dis, on ne perd jamais en pardonnant, on ne perd jamais. Et donc, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent à quoi bon.
Mais si vous écoutez ces phrases, gloire à Dieu, ça veut dire que vous êtes en train de trouver un petit grain d'extravagance, une petite réalité d'intimité. Et j'espère, bon, mes parents, j'ai entendu ça toute ma vie, hein, avec surtout quand je me suis joint à Horizon, une mission. T'es pas payé, t'es pas ça, et tu dois payer aussi pour faire des fous, et ça a monté. À quoi bon perdre ta vie, toute ton éducation, tout ce que t'as fait, tu aurais pu. Et ça, c'est la deuxième question. Tu aurais pu. Parce que le diable, il veut toujours nous faire fantasmer sur d'autres réalités. Il veut nous faire fuir nos réalités. Pour dire, oh, mais tu aurais pu. Si tu t'étais pas marié, si tu n'étais pas à l'église, si tu n'étais pas à Jésus, tu aurais pu. Oh, ce matin, j'aurais pu voir à la télé la canonisation de Jean et de Jean-Paul. Il y a les quatre papes aujourd'hui. C'est pas ça, c'est bien. Et donc, il y a deux vivants. Non, il y a un mort. Et il y a un qui est prêt. Non, il y a deux morts. Et il y a un vivant. Et il y a un entre les deux. Il y a un qui a un pied dans les deux camps. Pardon. Pour les catholiques ici, j'aime beaucoup les catholiques. Donc ça. J'aime. Non, mais on aurait pu faire autre chose. On peut toujours, au lieu de gaspiller son temps à partager l'évangile, à prier, ouvrir sa maison, on aurait pu regarder la télé, on aurait pu boire un bon coup, on aurait pu. Si j'étais pas pasteur de cette église, j'aurais pu être footballeur professionnel et jouer pour le Barça. C'est pas vrai, mais c'est mon fantasme. Et quelquefois, j'aurais pu. Si je n'étais pas marié avec Sylviane, tu sais, si je n'étais pas marié avec Sylviane, j'aurais pu être marié avec Brigitte Bardot. Mais quand même, elle est mieux, hein? Non, mais c'est juste pour vous montrer qu'il faut éviter j'aurais pu et à quoi bon. D'accord? Ça, c'est des deux questions à ne pas avaler. Même si les gens vous disent ça, au lieu d'aller on aurait pu, au lieu de faire la mission, au lieu de faire ça, on aurait pu. Bien sûr, on peut toujours faire d'autres choses. Mais moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. J'ai choisi d'adorer. J'ai choisi de prier. J'ai choisi de me sacrifier. Et je le fais très imparfaitement. Comme cette femme, je fais un petit brisement, mais je le fais pour Jésus. Et donc, tous les religieux, tous les disciples, tous les gens qui s'indignent, allez Jésus, défends-moi. Après Jésus, il dit à ces gens, verset 6, mais Jésus dit, laissez-la. Et si vous êtes embêté par les gens qui n'aiment pas que vous allez dans l'église, qui n'aiment pas que vous priez et que vous faites ça, s'ils disent c'est un gaspillage de temps et tout le reste, Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Et après il dit ceci, elle a fait une belle chose ou une bonne action à mon égard. Elle a fait une belle chose à mon égard. Alléluia. Et moi, à la fin de ma vie, j'aimerais bien que les gens écrivent sur mon tombeau, au moins Pierre Tombal, la cave familiale à Tumery, je ne sais pas, ils vont m'enterrer dans le jardin du château, avec là où on a enterré les lapins et les coqs, hein, peut-être. Mais au moins, vous pouvez marquer, vous pouvez graver dans l'arbre, il a fait une belle chose à mon égard. Parce qu'il a investi quelque chose dans l'adoration. Il a investi quelque chose dans la prière. Il a investi quelque chose dans le don de soi pour l'autre. Et pourquoi pas ne pas commencer là? C'est-à-dire, moi-même, je peux être missionnaire aujourd'hui. Je peux être à table, même à table à midi. En priant, en adorant. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire toujours louer, mais d'avoir une vie d'adoration, une vie de prière et une vie de sacrifice. Et je vous invite à briser votre vase pour Jésus avec extravagance. Avec extravagance. Mais je ne vous demande pas de donner une année de salaire. Honnêtement. Ça serait la manipulation ce matin. Mais vous pouvez, si vous gagnez le loto, vous pouvez donner une année de salaire. Mais bon, je plaisante. Allez.
elle a fait une belle chose pour moi, une bonne action à mon égard. Et c'est ça l'Église. On est des participants avec l'intimité de Jésus. Nous sommes une épouse extravagante qui aime Jésus. Et ce n'est pas un devoir. On n'est pas obligé de faire des choses. On n'est pas obligé. C'est la pire chose. Si on fait l'adoration par obligation, la prière ou le sacrifice, que ce soit de notre temps, de notre argent, de notre vie, de toutes sortes de sacrifices, c'est terrible. Il y a une certaine discipline parce que ça coûte de se sacrifier. Mais dans une famille, le moment qu'on perd l'amour derrière notre sacrifice, c'est très très difficile et c'est très usant. Et l'Église, le moment qu'on perd l'onction et l'amour de notre sacrifice et de notre témoignage, c'est usant, c'est comme un devoir qu'on doit faire. Et là, je veux abolir ça. Et je dis, mais Seigneur, par le Saint-Esprit, donne-nous de l'onction et qu'on puisse briser nos vases pour faire une belle chose pour Jésus. Amen, je vais prier. Donc, cette prière, c'est un petit marteau? Non, ce n'est pas un marteau. Vous avez vous-même le marteau, d'accord? Vous avez vous-même le marteau et vous utilisez comme vous voulez. Et donc, Seigneur, merci. Seigneur, partout où l'Évangile est prêché, on parle de cette femme, de cet esprit d'adoration, de sacrifice, de prière, comme les prières qui montaient comme l'encens en Apocalypse. Mais Seigneur, je te demande de faire dégager de notre vie, Seigneur, de faire dégager de notre vie un parfum pour toi. Seigneur, tu vois mon petit vase d'argile, mon petit vase d'albâtre. Et Seigneur, tu vois avec toutes les années combien de fois ça a été brisé. Et Seigneur, je te demande encore de me donner la force de te l'offrir de nouveau, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Amen.